carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Virginia Crespo.
Dans le cadre de la Journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement sous l'égide de l'UNESCO, eh bien, Canal Académie a le plaisir d'accueillir devant ses micros à l'Institut de France Florence Delay de l'Académie française. Merci d'être avec nous et de partager ce moment de réflexion autour de ce joli mot diversité. Vous, grande spécialiste du siècle d'or, de ces grands auteurs hispaniques, eh bien, nous sommes ravis de vous avoir avec nous. En face de vous, Carla Arrigoni. Carla Arrigoni, bonjour. Vous êtes présidente du comité municipal d'animation culturelle du 1er arrondissement de la ville de Paris, un arrondissement qui va se mettre aux couleurs de la ville de Cordoba, la ville de Cordoue. Et à vos côtés, Jean-François Legaré, que nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui.
Bonjour.
Qui est maire du 1er arrondissement et conseiller régional d'Île-de-France. Parmi nous également, alors le seul hispanique, je crois, de notre équipe. Alors, le professeur Javier de Lucas, vous êtes directeur, bonjour, du Collège des España à la Cité internationale universitaire de Paris. Vous êtes spécialisé dans des études de droit, je crois.
Oui, effectivement.
Voilà, et vous êtes sur le sol français depuis ce Collège d'Espagne depuis 2005. Et vous vous plaisez à la Cité universitaire.
Cadeau, c'est un privilège, je vous assure.
Jean-François Legaré, alors, je viens de l'évoquer il y a un instant. Le premier arrondissement va vivre sous les couleurs de la ville de Cordoue, Cordoba. Alors, expliquez-nous.
Quatrième édition de ce Festival de la diversité culturelle avec le soutien de l'UNESCO. Et nous sommes très heureux de ce partenariat, puisque au cours des années passées, on a déjà beaucoup échangé, organisé des concerts, des manifestations, des conférences. Alors, pourquoi la diversité culturelle dans le premier arrondissement? Parce que le premier arrondissement a des caractéristiques bien connues. C'est un petit arrondissement à Paris, mais il est bien situé, il est au centre de la capitale, et puis il a un patrimoine culturel, monumental, évidemment assez exceptionnel. Et vous savez, dans ces apports de l'architecture, de l'histoire, il y a des contributions du monde entier, finalement. L'histoire de Paris, elle a été faite, les grands architectes étrangers, tous les grands auteurs, tous les grands artistes du monde entier sont venus ici, sur les rives de Seine, admirer ce paysage qui est évidemment très, très mythique. Donc, je crois que c'est un peu la vocation d'un arrondissement comme le nôtre, d'être une porte ouverte sur la diversité culturelle. Et en tout cas, avec l'encouragement et la participation de l'UNESCO, on est très heureux de le faire. Et puis, c'est vrai que Cordoue est aussi une ville extraordinairement symbolique de la diversité culturelle, des apports des cultures très, très différentes. Depuis Rome et le passage des grandes civilisations arabes, c'est évidemment un symbole d'osmose, finalement, entre ces cultures qui ont produit des chefs-d'œuvre extraordinaires. Alors, je crois qu'on a aussi une autre vocation quand on est un arrondissement de Paris et qu'on a la chance d'avoir cette situation aussi accessible, d'être un peu à la croisée des chemins. C'est non seulement de faire un travail d'ouverture, mais c'est aussi de faire un travail de pédagogie. C'est-à-dire que quand on fait une exposition à la mairie du 1er, on invite les écoles, les élèves à venir et pas seulement à faire des expositions statiques, c'est-à-dire à avoir en même temps des explications, à démontrer, à commenter, à enseigner ce que sont les cultures et les apports culturels. Je crois que c'est ça qui est intéressant, c'est cette dimension-là que l'on essaye de faire, en tout cas, d'année en année et d'améliorer grâce à Carla et Arrigoni, qui se donne beaucoup de mal en tant que présidente du comité municipal d'animation. Et nos contacts avec l'UNESCO sont vraiment d'une qualité exceptionnelle.
Alors justement, quelques mots sur cette journée mondiale.
Alors, cette journée mondiale, c'est le 21 mai, donc chez nous, ça ne durera pas seulement une journée. Il y aura un ensemble de manifestations qui se dérouleront, mais effectivement, avec le partenariat de l'UNESCO, de l'ambassade d'Espagne, de son office culturel, de la délégation espagnole auprès de l'UNESCO, de l'Institut Cervantes, de l'Office espagnol du tourisme, notre invité d'honneur, c'est la ville de Cordoue. Alors, on aura naturellement des artistes, des animations, et puis on va faire en sorte que alors cette fête des patios soit justement une occasion d'ouvrir Paris sur Cordoue et de faire venir non seulement Cordoue, mais ce qui fait son âme, ce qui fait sa richesse, ce qui fait son mystère. C'est pas facile à transposer tout ça, mais je suis sûr que à Cordoue, on a la volonté de nous apporter tout cela. Même si c'est un apport un peu, je dirais, multiple, en vrac, chacun y fera son choix. et chacun viendra y trouver ce qu'il recherche.
Comment toutes ces personnalités officielles ont réagi à votre proposition, à vos sollicitations ? Comment est-ce que s'est organisé ?
C'est vrai que ça a été un accueil, je dirais, tout à fait exceptionnel. On a beaucoup de chance parce que à chaque fois qu'on a fait des propositions, on nous a dit tout de suite oui. Et on s'est vraiment efforcé de répondre complètement et de faire venir, dans le cadre de ces échanges, des artistes, des personnalités de renom tout à fait exceptionnelles. Donc moi, je suis vraiment extrêmement satisfait de la réactivité, de la qualité de ces échanges. C'est vrai que le partenariat, le parrainage de l'UNESCO est pour nous extrêmement précieux parce que ça donne beaucoup de crédibilité à cette démarche et c'est pour nous un partenariat auquel nous sommes très attachés. Il y a vraiment énormément de qualité et une réponse, je dirais spontanément, amicale, ouverte, et ça c'est très important.
Dans l'esprit de la construction européenne et de la permanence européenne, ce sont de très belles initiatives et qui donnent lieu régulièrement à ce type d'échange, de partage, de liens entre différentes capitales.
Oui, c'est-à-dire que nous, on est un petit peu au début de ce travail. Je vous dis, c'est la quatrième année, donc soyons modestes, mais... Notre volonté, c'est de nous améliorer en chemin et de faire de mieux en mieux. Et justement, de donner cette dimension. Vous savez, l'Europe, on en parle beaucoup, finalement, elle reste très largement mystérieuse pour beaucoup d'Européens, si on demande. Et je trouve même que les enfants sont parfois plus au point que leurs parents. Si vous demandez à des enfants ou scolarisés de vous parler de l'Europe, ils seront peut-être moins secs que si vous demandez à leurs parents de vous citer la liste des pays européens. C'est pour ça que je trouve que quand on a la chance d'être élu et d'avoir une mairie à sa disposition, on a un peu le devoir de contribuer à la pédagogie, à l'explication. L'idée simple consistant à faire, par exemple, chaque année, dans chaque mairie d'arrondissement à Paris, enfin, mes choix ou mes orientations ne s'imposent naturellement pas à mes collègues, mais si on faisait ça un peu partout, de donner chaque année une ville, un pays, et faire venir non seulement une exposition, mais des artistes, des responsables qui expliquent ce qu'est la culture de ces pays, ce qu'est la culture de cette ville à des habitants du quartier, à des scolaires, à des jeunes, et qui naturellement ça débouche sur des échanges, je crois qu'on ferait très utilement progresser la connaissance et l'échange. Et je trouve que le sens de ce message très fort de l'UNESCO sur la diversité culturelle, c'est justement ça, c'est qu'on découvre des cultures qui sont extrêmement différentes, qui ont une richesse, une histoire, un patrimoine... une ancienneté parfois qui nous impressionne, parce qu'on croit toujours qu'en France, on a tout inventé. Il y a beaucoup d'antériorité dans de très grandes cultures qui sont très proches de nous. Donc, c'est ça qui est intéressant. Et je pense qu'on a le devoir de faire cette pédagogie, de faire cette explication. En tout cas, nous, on s'efforce d'y contribuer. On a bien l'intention de persévérer dans cette démarche, oui.
Justement, Florence Delay, l'idée même de créer une espèce de petite cordoue avec des personnes qui vont apporter leur énergie, apporter leur culture, apporter leur diversité, apporter leur langue. Qu'en avez-vous pensé ?
J'étais très surprise, ça me plaît beaucoup et je crois que je vais y aller.
Écouter du flamenco, manger du tapas.
Un petit tout. Peut-être un tout petit regret que ces journées ne laissent pas un peu de part à la pensée et à la poésie. Parce que quand même, Cordoue est une cité capitale dans l'histoire de la philosophie. Que ce soit, on le rappelait tout à l'heure, parce que c'est le berceau du plus grand philosophe arabe qu'on appelait l'âme d'Aristote, qui est Averroès, et aussi un des grands, grands philosophes juifs comme Maïmonide. Et voilà. Mais en même temps, c'est le mois de mai, c'est la fête. Donc, je comprends très bien qu'on ait accentué sur d'abord cette création admirable de Al-Andalus, qui est le patio, et qu'on comprenne... Peut-être alors les Parisiens ne se rendront pas compte que c'est une merveille au milieu de la sécheresse d'entendre clapoter l'eau. Alors peut-être cette dimension manquera.
Canal Académie étant partenaire de ce festival est là et vous êtes la preuve même devant ces micros que cette belle langue, cette littérature sera présente. Et on espère avec vous compagnonner auprès de ces grands noms de la littérature espagnole.
On aurait dû apporter un bruitage de clapotis.
Alors justement, nous en étions un peu à l'énoncé de toutes les manifestations, de tous les événements. Est-ce que Carla Rigoni, vous pourriez nous embrosser comme ça un grand plan en général?
Oui, bien sûr. Alors, la ville de Cordoue est bien entendu l'invitée d'honneur. Donc, nous allons même reconstituer, je dirais, dans la cour de la mairie, un patio, donc le maire est à côté, donc il pourra le confirmer. Et dans l'espace qui va avoir lieu, place du Palais Royal, où nous allons organiser pour la première fois un salon des arts et des artisans, nous allons mettre à la disposition donc, de la ville de Cordoue 100 mètres carrés. Et sur cet espace, ils vont pouvoir recréer, je dirais, l'atmosphère d'un patio avec les fleurs, les fenêtres. Voilà, toute l'atmosphère sera là. Nous allons aussi recevoir donc le 21 mai. Nous allons procéder à toutes les inaugurations ce jour-là, qui est la journée mondiale de la diversité culturelle. Nous allons accueillir des danseurs à la mairie de danse Arescu. Nous allons aussi accueillir, après place du Palais Royal, des danseurs de flamenco. Et plus particulièrement Manolo Guterres et la compagnie Veven. Le soir, nous allons avoir un concert de musique baroque avec le sextet Singlo Ciclo, qui sera organisé donc à l'Oratoire du Louvre. Nous allons aussi accueillir la reine du carnaval de Tenerife avec sa robe monumentale, donc paraît-il qui pèse plus de 200 kilos. Donc elle était de passage à Paris, alors on s'est dit qu'elle serait la bienvenue dans le cadre de notre festival. Et donc toutes ces manifestations vont se dérouler donc le 21 mai. Mais avant et après, nous allons aussi organiser d'autres concerts. Et on va clôturer notre festival avec le grand chanteur espagnol qui s'appelle Diego El Cigala, qui est une star internationale, aussi bien en Espagne, en France et surtout dans les pays d'Amérique du Sud. Et récemment, il a eu le droit à des pages entières dans le journal Le Monde, Libération. Voilà, donc nous sommes tous très fiers d'accueillir ce chanteur et qui clôturera, j'espère, ce festival en beauté. Il va y avoir aussi des expositions à la mairie avec des artistes espagnols comme Luis Oliver, Alberto Reguera. Il va y avoir l'Office du tourisme espagnol qui va nous faire des reportages aussi sur la ville de Cordoue. Et nous aurons aussi, place du Palais Royal, le sculpteur donc, qui s'appelle
Abelardo Espero.
Espero, voilà. Tremblin. Tremblin, voilà.
Florence Delay, est-ce qu'on peut vous demander pourquoi cette passion pour l'Espagne, pour ce pays ? C'est un nom, c'est un auteur, ou c'est le pays, c'est un contact personnel avec ce pays, avec cette terre, avec ses habitants. C'est la langue espagnole qui vous a fait vibrer, Florence Delay. Confiez-nous ce...
C'est tout ce que vous venez de dire. C'est à la fois le paysage, la rencontre avec Calderón et Lorca. C'est le goût de cette langue accentuée, qui bouge tellement plus que le français. C'est mille choses. C'est devenu donc mon autre pays, enfin, la langue non maternelle à laquelle je dois autant que la langue maternelle. Pour revenir à Cordoue, eh bien, c'est aussi la ville où est né un des plus grands poètes espagnols, Luis de Góngora, que l'histoire littéraire compare un peu à notre Mallarmé, écrivain des solitudes, poème intraduisible. C'est merveilleux quand on peut dire poème intraduisible parce qu'il a été inlassablement traduit et très bien.
Alors, la particularité de cette ville de Cordoue, professeur Javier de Lucas, pourquoi cette ville de Cordoue a-t-elle attaché historiquement son nom au mot diversité, celle qui a fait l'alliance, celle qui a fait vivre en sérénité les trois monothéismes ?
Bon, écoutez, permettez-moi tout d'abord d'exprimer combien je suis ravi de participer à cette émission. Je suis vraiment en change en écoutant Madame Delay qui a tellement bien évoqué cet espace où il y a le jardin, il y a de l'eau, il y a de la présence de la philosophie et de la littérature parmi le plus important la tradition espagnole. Elle vient d'évoquer justement notre bien-aimé Luis de Góngora, qui était un contemporain de Quevedo, mais en même temps tellement différent.
Il se détestait.
c'est vrai. Mais elle a à juste titre évoqué deux des philosophes les plus importants de l'histoire de la pensée, de la philosophie, pas uniquement de l'Espagne, mais bien sûr de l'Espagne, c'est-à-dire Ibn Rushd, Averroès, et Maïmonide. Moi, je me permets d'ajouter Sénèque, qui était aussi quelqu'un assez intéressant. Bon. Disons pour
Sénèque
dire.
Parce qu'il est né à Cordoue.
Absolument, oui. Absolument. Et alors, si vous pensez un petit instant, les noms dont on a évoqué, dont on vient d'évoquer, il y a l'image de la Cordoue. il faut le dire que la Cordoue, c'est surtout l'image le plus important, disons, de la tradition, de l'art, de la culture, à la tradition aussi islamique. Il faut qu'il y allait rester quelques minutes face aux forêts des colonnes de la mosquée cathédrale de Cordoue, ou, disons, c'est flâner à la Juderia de Cordoue, ce quartier, l'ancien quartier juif de Cordoue, ou y aller à Medina Sahara, les sites archéologiques tout près de Cordoue, pour saisir d'une façon tellement facile jusqu'à quel point la Cordoue sont le, je sais pas si on peut dire comme cela, les précipités, c'est-à-dire la condensation de tous ces éléments, de tous ces siècles de civilisation, de culture. Moi, je suis pas tellement d'accord avec cette idée reçue, ces topics, disons, de la...
Bien vivre ensemble.
Bien vivre ensemble des trois communautés. Et il est vrai que parmi les espaces, c'est surtout Cordoue et Tolède, bien sûr, disons, l'exemple le plus important. Mais en tout cas, il est vrai que à Cordoue, pendant tous ces siècles, de la présence de ces Espagnols qui ont tellement contribué à la richesse de notre culture, de la pensée, de l'art, de l'Espagne même, du monde, que nous sommes tellement reconnaissants à la mairie de Paris d'avoir décidé de mettre en hommage Cordoue. Parmi, disons, les villes à choisir, c'est, à mon avis, une très, très belle décision.
Alors, vous avez cité Averroès et vous parliez tout à l'heure, en préparation d'émission, de Maïmonide aussi.
Oui, c'est-à-dire, imaginez, elles sont des contemporaines et à la ville la plus importante, pas uniquement du monde islamique, mais du monde à l'époque, c'est-à-dire, on parle du 12e, de l'11e et du 12e siècle.
Est-ce que c'est vrai ce qu'on dit, qu'il y avait 1 million d'habitants à ce moment-là?
Apparemment, c'est vrai, c'est-à-dire c'était la 2e, 3e ville au monde, le Cordoue. Et disons, il y avait les califats, bien sûr, et parmi les villes, disons, musulmanes, c'était peut-être la plus importante. Et alors, il y a eu une tradition, une très belle tradition aussi, de la soi-disant tolérance, même si faudrait-il peut-être d'en discuter, mais une tradition assez importante. Et ce n'est pas par hasard qu'on assiste à la naissance et au développement de deux puissances philosophiques les plus importantes. D'un côté, c'est lui qui a fait possible de connaître et de transmettre Aristote. Ça a été lui.
Alors, ce qui est très beau, c'est qu'il ne connaissait pas le grec.
Effectivement.
Mais avant que les traducteurs aient traduit, il captait la pensée d'Aristote si vite qu'on l'avait donc justement surnommé l'âme d'Aristote.
L'âme d'Aristote, c'est effectivement. Et moi, je crois que le mot l'âme d'Aristote, c'est tellement précieux. C'est-à-dire pour dire que l'Occident ne peut pas exister sans la contribution de Cordoue, sans la contribution d'Averroès. Et bien sûr, qu'est-ce qu'on peut dire de Maïmonide? C'est un descendant en ligne droite du roi David, apparemment, le rabbin Maïmonide. C'est, disons, l'auteur, parmi d'autres, de la Guide des Ségarés. C'est les mots de perplexité qui Maïmonide découvert et cultivé énormément les conseils. Et Maïmonide, c'était quelqu'un qui aimait tellement Cordoue, comme Averroès, qui a demandé ses descendants de déménager ce reste pour être enterré à Cordoue. Combien l'aimer.
J'ajouterais que ce problème de vivre ensemble est capital et souvent, comme disait le professeur de Lucas, on a idéalisé le bien vivre ensemble. Mais reste que Maïmonide a dû s'enfuir parce que les Almohades qui gouvernaient la ville étaient antisémites. Et donc Maïmonide a dû quitter et s'est réfugié en Égypte, au Maroc d'abord, au
Maroc et après
Égypte. Et puis au Caire. Alors, à propos de cette diversité culturelle que vous évoquez, j'aimerais rappeler que l'Académie française a fait entrer dans son dictionnaire en 2004 le mot « convivance » sur la demande d'une charte européenne de la convivance et on a étudié l'étymologie de ce mot. Tout le monde hispanique nous demandait « quel mot dire à la place? Parce que c'est pas coexistence, c'est pas cohabitation, c'est cum vivere, vivre avec. Et le problème s'est posé de façon urgente lorsque le pape Jean-Paul II a fait dans sa bénédiction Urbi et Orbi un appel à la convivenza des peuples. La convivenza des peuples, il n'y avait pas de mot en français. L'exemple en était ce qui s'est passé donc dans cette Espagne d'Al-Andalus, à Cordoue en particulier, qui était ce vivre avec. Alors bien, c'est peut-être trop. Mal et trop également.
Et trop également.
Mais voilà, comment faire pour vivre ensemble. Et je crois que cette convivance va étonnamment de pair avec la diversité. Et la diversité culturelle en particulier.
Oui.
Mais là, toutes les formes de,
oui,
de diversité.
Comment faire vivre cette convivance c'est... malgré ou grâce à la diversité?
Voilà, ces mots doivent se marier et c'est pour ça que je voulais...
C'est mieux que cohabitation.
Oui.
Donc on n'a pas forcément une symbolique idyllique. Ouais. Hein.
Voilà. Et là, nos élus sont au cœur de cette problématique.
Oui, oui, oui.
Comment assurer cette convivence entre des êtres différents, culturellement, professionnellement, sociologiquement?
Vous savez, c'est vrai que c'est un défi au quotidien et le premier arrondissement qui est le plus petit arrondissement de Paris en population, pas tout à fait en territoire, c'est un des plus petits sur le territoire, mais quand vous regardez une carte du premier, vous avez un gros tiers de la surface qui est occupée par le Louvre, les Tuileries, le Palais Royal, où il y a évidemment peu d'habitants. Mais nous sommes quand même probablement l'arrondissement le plus contrasté de Paris. Dans tous les arrondissements, il y a des contrastes. Et tous les arrondissements ont des richesses extraordinaires, sans exception. Mais là, sur le même territoire, on a la place Vendôme et le Forum des Halles, si vous voulez. On a les deux extrémités de la sociologie parisienne. Et c'est vraiment deux mondes. C'est ça qui est extraordinaire, d'ailleurs. Moi, je suis encore frappé en allant chez des gens, en allant dans des quartiers, en discutant, c'est vraiment deux mondes qui convivent sur un même territoire à quelques centaines de mètres et qui n'ont absolument pas les mêmes habitudes, qui ne posent pas du tout les mêmes questions, qui n'attendent pas les mêmes réponses, qui n'ont pas la même manière de poser les questions d'ailleurs. C'est quand même très étrange. Alors là, pour la diversité, c'est encore sur un territoire aussi petit, dans une même ville et dans un même arrondissement, quelque chose de très surprenant. Mais je crois qu'il faut prendre ça aussi comme une richesse. C'est de se dire que finalement, c'est une grande chance que de côtoyer au quotidien voilà, des mondes et des traditions et aussi des projections, parce que ces gens-là ont tous besoin d'avoir des projets, des rêves, des avenirs dans ce quartier auquel ils sont tous profondément très, très, très attachés. Donc ça, c'est, je trouve que c'est très passionnant.
Professeur Javier De Lucas, pour les jeunes générations qui sont à l'écoute des programmes de Canal Académie, pourriez-vous nous faire un petit condensé historique par rapport à cette belle ville de Cordoba? Alors, une ville qui a vécu des...
En trois mots.
Des invasions, alors...
Pour dire donc... la vérité, je devrais te répondre non, je ne peux pas. vraiment, c'est une histoire tellement complexe et riche qu'on ne peut pas faire le résumé dans quelques mots. Ça serait de perdre, moi je risquerais de perdre toute justement sa richesse. Par contre, je dirais que le Cordoue, comme ville, c'est pas uniquement un monument historique. Et c'est ça qui m'intéresse aussi de remarquer. C'est-à-dire que cette tradition de la richesse de la diversité et de cet concept tellement difficile de traduire des convivances, des, qu'on dit chez nous, des convivencias, des cultures, de gens, des religions, des nations, des traditions et d'ethnies, et des institutions et des pratiques. Ça, on peut bien saisir pour, lorsqu'on se trouve là-bas. C'est une ville extrêmement dynamique, extrêmement encore riche pour récupérer ces différents éléments de la tradition que, comme j'essayais d'évoquer tout brièvement, montent jusqu'au moins à la tradition de Sénèque, c'est-à-dire une tradition parmi les plus importantes de la tradition, de l'héritage que nous, en Espagne, nous devons aux Romains, et bien sûr, surtout à la tradition du monde arabe et musulman, même si, comme Madame Delay l'a évoqué très justement, à juste titre, c'est pas la même chose. Il y a les Almohades qui ont été pas exactement les modèles pour soutenir la tolérance et la convivance. Pas
Mais
du tout.
En même temps, il y a ces phénomènes, pour nous, mystérieux, qui est la transformation de la plus grande mosquée du monde musulman en cathédrale. Parce que je crois que c'est le premier calife de Cordoue,
oui.
Abderrahman.
Abderrahman, le premier, oui.
Oui, le juste, qu'on disait le juste, qui a lancé bon, la construction d'une mosquée qui est d'une beauté extraordinaire et évidemment contredite au moment de la reconquête, transformée, métamorphosée en cathédrale. Et de temps en temps, enfin, le Français qui découvre ça est absolument comme dans un conte de fées, d'ailleurs.
Parce que brusquement, c'est la même chose à Séville aussi.
Oui. C'est ce mariage des deux religions
la Giralda,
dans l'architecture.
Qui est sublime.
Y a, à la cathédrale et la Giralda, il y a le soi-disant patio de los naranjos. Et ils sont tous cette partie qui est tout à fait extraordinaire. C'est la mixité, bon, pas tellement pacifique. Ils sont de la tradition des uns et des autres. Il faut rappeler qu'un des plus importants parmi le... disons, le représentant de l'histoire de Cordoue, c'est Al-Manshur, qui a été quelqu'un qui est arrivé jusqu'à la conquête de Santiago de Compostela, qui est pas mal, car Santiago de Compostela, c'est un homme, disons, extrêmement important à la tradition chrétienne de l'Europe et qui a fait détruire pour remporter le clocher de Santiago de Compostela pour remporter tout cela pour la mosquée de Cordoue.
C'est,
oui, effectivement, c'est-à-dire, sont des histoires extrêmement importantes. C'est-à-dire que, disons, à l'imaginaire aussi de chrétiens de l'Espagne, on ne peut pas dire l'Espagne à ce moment-là, mais bon, à l'imaginaire, il y a là aussi. C'est-à-dire que Al-Mansur, qui nous disons Al-Mansur, c'est celui qui a détruit, qui a touché les cœurs, disons, de mon chrétien, en arrivant à Santiago et à, disons, faire détruire ses clochers pour, disons, décorer la mosquée de Cordoue.
C'est très, très important ce que vous racontez, parce que je crois que quand on parle aujourd'hui de ces chocs de civilisations, on a toujours l'impression que ces grandes religions monothéistes et toute leur histoire sont finalement opposées, s'ignorent et se méprisent mutuellement. C'est l'image qu'on en a beaucoup trop souvent. Et je voudrais dire que ce que vous racontez et cet enrichissement mutuel, finalement, de ces cultures, il y a un élément qui va bientôt y contribuer, je crois, de manière assez spectaculaire, c'est le département des arts de l'islam qui va s'ouvrir au Louvre, où il y a des collections très importantes d'art islamique, et ça sera fait cette année dans ce très grand musée, dans le premier arrondissement. Et je pense que là aussi, pour la connaissance et pour comprendre à quel point cet art islamique et sa philosophie, sa science, sa littérature a influencé finalement le monde occidental, ça sera aussi, je crois, une pierre très importante qui sera posée dans le monde de la culture française et compte tenu du rayonnement international du Musée du Louvre, puisque vous savez qu'il y a 8 millions de visiteurs chaque année, c'est absolument considérable. Je crois que toutes ces histoires que vous racontez seront sans doute beaucoup mieux connues.
Florence Delay, vous nous avez tout à l'heure évoqué les noms de grands auteurs et qui ont contribué au rayonnement de cette pensée, de cette philosophie et qui s'est communiqué au cours des siècles, est-ce que vous pourriez leur donner chair, leur donner une voix, et nous les présenter un ou deux, et de rentrer un peu dans le patrimoine littéraire et culturel qu'ils lèguent aux générations d'aujourd'hui?
Écoutez, non, je n'en suis pas capable, parce que je ne suis pas philosophe, que le guide des égarés de Maïmonide, qui est en fait le guide d'une réflexion sur la perplexité davantage que sur l'égarement, est assez difficile à lire. Et moi, si vous voulez, je pourrais juste vous dire qu'il y a un vers de Lorca magnifique sur Cordoue qui dit « Córdoba lejana y sola ». Cordoue, lointaine et seule.
Comment vous l'interprétez, lointaine et seule?
Eh bien justement, je voudrais demander au professeur Javier de Lucas.
Pourquoi notre Córdoba?
On lui pose que des questions très difficiles.
C'est-à-dire qu'en fait, c'est un vers qui n'est pas dans le romancero gitan.
Non.
Mais j'ai pris un poème dédié à Cordoue dans le romancero gitan. Mais ce vers « Córdoba lejana y sola » qui redit au début et à la fin, magnifique. Voilà, est-ce que c'est la solitude géographique de la ville? Est-ce que c'est sa solitude, au fond, morale, sentimentale?
C'est une question extrêmement difficile. Je peux suggérer deux éléments d'interprétation. Pour le premier, je suis tout à fait d'accord. Il y a, disons, à l'Espagne contemporaine. C'est-à-dire, on ne parle pas de la magnifique Cordoue, mais on parle, vous devez imaginer, l'Espagne de Lorca.
Aujourd'hui,
enfin, l'Espagne de Lorca, disons, au premier tiers du XXe siècle.
C'est-à-dire après sa splendeur.
Effectivement. Et là, vous trouvez presque, je peux le dire, de la misère. C'est-à-dire, il y avait ce paysage de l'Andalousie qui était en même temps extrêmement riche du point de vue de l'art, des passions, de la philosophie de vie, mais en même temps du point de vue du rapport avec le procès de modernisation, c'était, disons, la preuve la plus visible du retard de l'Espagne et de l'Andalousie. Et en plus, il faut le dire, Cordoue, qui a été parmi les plus importantes villes du monde entier, maintenant c'était une ville déplacée entre les deux villes les plus importantes de l'Andalousie. Séville, qui attire tout le monde, et Grenade, la ville de Lorca. Et alors, Cordoue, c'est lointain et seul. C'est-à-dire, elle reste à l'écart. Elle n'est pas, disons, parmi les villes les plus importantes de l'Andalousie. Elle reste, disons, à la nostalgie et à la perte
de ses splendeurs passées.
Tous ces magnifiques richesses, qui est une richesse surtout intellectuelle, artistique, pas uniquement, disons, pour l'histoire, mais pour l'art, pour le, bien sûr, l'architecture, du point de vue architectural, mais éloignée de la puissance du monde contemporain qui, bien sûr, est établi et lié plutôt au développement de ces deux villes qui sont aux extrêmes de l'Andalousie, Séville et Grenade. Cordoue, c'est un peu pratiquement au milieu, c'est lointain, c'est seul.
Voilà, mais Cordoue n'est pas oublié à Paris, dans le premier arrondissement, et c'est pour cela que
en
nous
cas,
fêterons cette
lointain
belle ville.
Lointain peut-être, mais plus seul alors.
On termine par quelques lignes.
Écoutez, c'est un poème du roman Sérogitan de Lorca qui couvre au fond toute l'Andalousie. Et il y a dans ce roman Sérogitan, dédié à la ville de Cordoue, un saint, Saint Raphaël. Et dans ce poème, Lorca oppose deux Cordoues. Et là, je voudrais, comme je ne comprends pas très bien, je me tourne vers mon voisin. Un seul poisson dans le flot, et les deux Cordoues se joignent. Tendre Cordoue des ajoncs, Cordoue de l'architecture. Impassible des enfants se dénudent sur la rive, à l'école de Toby et Merlin par la ceinture. Ils fatiguent le poisson avec leurs questions narquoises. Aiment-ils les fleurs de vin ou les bonds de demi-lune? Le poisson qui dort l'eau et qui endeuille les marbres leur donne sa droite leçon de solitaire colonne. Un seul poisson dans le flot et deux Cordoues de merveille, Cordoue rompue en jet d'eau, sèche Cordoue céleste. Ces deux Cordoues, alors la tendre des ajoncs et la dure de l'architecture, et puis la Cordoue des jets d'eau et du patio, au fond,
oui.
Et la Cordoue sèche, je pense, de la géographie. Et
oui.
C'est ça, n'est-ce pas?
C'est ça, exactement.
À peu près, oui.
Donc une ville de contraste,
oui.
Une ville de différence très marquée.
Oui, c'est la ville du son des quelque part de l'estoïcisme et de la sécheresse de Sénèque, qu'il ne faut pas oublier.
Non.
Mais en même temps de la richesse de fleurs, des patios, de jets d'eau, vous avez évoqué, disons, au poème de Lorca.
Ce Sénèque que Nietzsche surnommait Toréador de la vertu.
Toréador de la vertu.
Nietzsche qui avait bien écouté Bizet.
Un toréador qui évoluait donc au milieu des passions et de la belle verdure et des floraisons. Merci à tous. Carla Rigoni, vous pourriez nous préciser alors les dates de ce festival de la diversité dans le cadre du premier arrondissement de la ville de Paris.
Alors les dates du festival, c'est à partir du 14 mai jusqu'au 2 juin. Et les inaugurations officielles auront lieu le lundi 21 mai, Donc, Journée mondiale de la diversité culturelle. Donc, à la mairie du 1er, toutes les manifestations, les concerts, les expositions, tout est gratuit. Donc, c'est justement pour accueillir, bien entendu, les habitants du 1er, mais surtout tous les Espagnols qui seront à Paris et tous les touristes, puisque nous sommes dans le cœur de la capitale.
Eh bien, merci à tous de votre présence devant les micros de Canal Académie pour nous parler de ce Festival de la diversité. Toutefois, avant de terminer cette émission, je souhaiterais que nous recevions maintenant Philippe Rath, ancien fonctionnaire de l'UNESCO, en poste au secteur de la culture jusqu'en 2010. Philippe Rath, bonjour. Philippe Rath, je souhaiterais justement que vous nous décliniez, que vous approchiez ce beau mot de la diversité, et notamment par rapport à cette institution qu'est l'UNESCO et que vous avez servi pendant un certain nombre d'années.
Vous savez qu'au tournant du millénaire, l'UNESCO a fait un effort particulier pour faire adopter par l'Assemblée générale des Nations unies la Déclaration universelle sur la diversité, qu'elle a ensuite convertie en conventions qui sont aujourd'hui très largement ratifiées à travers le monde, notamment la Convention de 2005 sur la diversité des expressions culturelles. C'est donc un thème qui est aujourd'hui prépondérant dans la vie de l'UNESCO. Et pour en mesurer toute la portée, je pense qu'il faut revenir à l'origine de l'UNESCO. Parce qu'on a un peu perdu le souvenir de ces temps maintenant très anciens, mais en 1945, le 16 novembre, lorsque l'UNESCO fut créée, c'est-à-dire 4 jours avant le procès de Nuremberg, il faut s'en souvenir, tout le monde est sous le coup de ce qui vient de se passer, et qui a été, chacun le sait, terrible. On s'interroge sur les causes de ce désastre où l'humanité a failli sombrer littéralement, et on perçoit assez bien que la racine du mal, ça a été justement la négation de la diversité. La Shoah, au fond, c'est une des expressions la plus abominable de cette négation de la diversité qui s'est portée aussi sur les tziganes, sur les homosexuels, sur d'autres, et qui, d'une manière générale, tendait à ériger ein Volk, ein Führer, ein Reich, c'est-à-dire un système uni, homogène, qui agrégeait les gens en un tout. On appelait ça le totalitarisme. Il s'est beaucoup survécu à travers le communisme jusqu'à des temps plus récents, mais c'est bien l'idée. Et c'est une des perversions les plus graves de la pensée et de l'histoire occidentale que d'avoir versé dans ce côté-là. Alors, lorsque on se trouve en 1945 en présence de ce désastre majeur, que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, une guerre totale est gagnée totalement contre un ennemi qui n'existe plus, on est bien obligé de trouver un principe directeur pour fonder l'avenir et pour justifier l'action qui a été faite auparavant. Et ce principe directeur, il est extraordinairement bien exprimé dans le préambule de l'acte constitutif de l'UNESCO, qui se présente ainsi comme étant au fond l'acte fondateur de l'après-guerre, donc la racine de notre identité d'aujourd'hui. Et cet acte fondateur nous dit 2 choses. La première, c'est que cette grande et terrible guerre a été permise par, je cite, le reniement de l'idéal démocratique, c'est important de noter ce point, le reniement de l'idéal démocratique de dignité, d'égalité et de respect de la personne humaine. On remarquera plusieurs mots. Reniement. Reniement, ça veut dire que ça existait avant. On l'avait déjà construit, on l'a simplement égaré, oublié, renié. Idéal démocratique. C'est-à-dire que c'est inhérent à la démocratie sans prescrire pour autant des formes de démocratie. C'est un principe. Et enfin, la dignité vient en premier avant d'autres choses. Ça, c'est la première chose qui est à la racine de cet acte constitutif. Il y en a une deuxième, c'est d'observer que les guerres prenant naissance dans l'esprit des hommes, je cite là encore, c'est dans l'esprit des hommes qu'il faut élever les défenses de la paix. Ça veut dire qu'on identifie au fond ce reniement là où il a pris naissance, à savoir dans l'ignorance et le préjugé. Fondamentalement, les hommes ne sont pas méchants, ne sont pas destinés à s'entretuer, et s'ils le font, c'est largement par ignorance et beaucoup par préjugé, le tout aggravé de manière parfaitement nocive lorsqu'on y inculque un projet, en quelque sorte, de réduction des êtres humains à l'état de race que l'on veut détruire. Ça, c'est le paradigme du nazisme ou d'autres régimes autour et depuis lors. Mais fondamentalement, les hommes pêchent par ignorance et par préjugé. Il y a 2 remèdes à ça, c'est simple. L'éducation pour remédier à l'ignorance, la culture pour remédier aux préjugés. D'où la fondation de l'UNESCO comme, encore une fois, le paradigme du monde contemporain. On a trop oublié, en parlant de l'importance des Nations Unies et de la modestie quasi chétive de l'UNESCO, que c'est une institution qui est un peu comme le quartz dans une montre ou dans un ordinateur. C'est elle qui donne le « là » du monde d'aujourd'hui et on l'oublie trop. Alors, quand je dis qu'elle donne le « là », on risque de penser qu'elle est un peu le chef d'orchestre qui, avec son diapason, dit « c'est comme ça ». Et c'est surtout pas comme ça. Parce que ce top que donne l'UNESCO, en quelque sorte, c'est d'inviter les êtres humains à se parler mutuellement. Quand on dit « dans l'esprit des hommes », il y a un pluriel. On dit les hommes, naturellement les femmes sont incluses dans cette enveloppe, c'est les humains, et c'est un pluriel. Donc forcément, il n'y a pas un esprit pour tous les hommes, il y a des esprits et autant d'esprits qu'il y a d'hommes, peut-être même davantage en comptant les schizophrènes. Donc, on a effectivement une pluralité qui est à la racine de cet idéal de l'UNESCO. On n'est pas du tout dans l'idée qu'on impose une pensée, qu'on impose une doctrine, qu'on impose une vision, surtout pas. Même si elle était bonne, même si elle était généreuse, même si elle était fondée sur les droits de l'homme, par exemple, elle n'a pas à s'imposer. Elle a par contre à fomenter, au sens étymologique, c'est réchauffer, le désir qu'ont les humains de se parler mutuellement. Désir qu'ils accomplissent deux par deux dans les relations amoureuses ou dans les relations d'amitié. Désir qui peut s'élargir à l'humanité, moyennant un effort, en effet, de découverte les uns des autres. Et pour cette découverte des uns des autres, le concept de diversité devient essentiel, pourvu qu'on ne se méprenne pas sur lui. Alors je voudrais faire une petite digression là-dessus, parce que depuis 10 ans, la France en particulier se pique de cultiver la diversité. Mais elle le fait d'une manière presque calamiteuse, c'est-à-dire elle a fait de la diversité une catégorie singulière. C'est-à-dire qu'il y a un groupe qui est censé incarner la diversité, alors ce groupe a des contours variables selon les lieux, mais il y a les non-divers et les divers, si j'ose dire. Et là, c'est une absurdité extrêmement grave. C'est une négation même de ce qu'on est en train de dire quand on parle de diversité sous cette forme. La diversité, c'est pas les autres, c'est nous. C'est ça qu'il faut comprendre. Et le but du festival auquel vous avez rattaché les conversations que nous avons, c'est bien ça. C'est-à-dire non pas du tout d'imposer une prédication sur la diversité, mais d'exercer les libres citoyens que nous sommes. Il y a un mot très beau dans l'acte de l'UNESCO, éduquer les enfants du monde aux responsabilités de l'homme libre. C'est ça le fond de l'affaire, les responsabilités de l'homme libre. Et cette liberté et cette responsabilité nous appellent à exprimer cette diversité. Alors comment ? Il y a deux dimensions pour le faire. Une première, qui relève un peu de l'éducation, pas mal de la culture, c'est l'ouverture à la variété des formes que ce monde peut revêtir. C'est évident que toute culture, toute forme d'expression, la peinture, la musique, le théâtre, que sais-je encore, enrichissent notre capacité de comprendre à quel point le monde est complexe et divers. Donc c'est très bien. Plus on y est exposé, mieux on se porte. Plus on est éduqué, plus on est ouvert à ces questions, plus on est cultivé, moins on est idiosyncrasique. Mais ça, c'est le petit côté des choses. En fait, le grand côté, c'est l'ouverture intérieure de chacun vers sa propre diversité constitutive. Je crains que nous n'oublions trop, parce que nous nous prenons pour des êtres singuliers ayant une identité, concept qu'on a tendance à élargir à l'échelle des communautés ou des nations, ce qui est assez absurde. Nous avons trop tendance à oublier que nous sommes des êtres au moins binaires et fondamentalement complexes. L'être humain procède d'un père et d'une mère, donc il est déjà un hybride, par définition. Son expérience est riche, diverse, variée. Il suffit de lire un livre pour être brusquement ouvert à une nouvelle culture. Donc chacun est un composé extrêmement complexe de dimensions. Et la diversité, elle est inhérente à l'être humain. Alors je voudrais oser le paradoxe suivant, qui est en fait une vérité que je crois fondamentale, c'est-à-dire que le seul point commun à tous les hommes, c'est le fait que chacun d'entre eux est pétri de diversité. Et donc il ne s'agit pas d'aller chercher la diversité chez l'autre, qu'on aurait érigé en un autre même, mais inverse, et qui nous permettrait à nous de nous prendre pour un même fondamental et ayant une identité. La vraie diversité, c'est juste d'être à l'écoute, d'être en parole, d'être en relation. Et c'est exactement ce que votre radio d'ailleurs fait par nature, mais ce que les entretiens et les rencontres autour d'un prétexte. Le prétexte, cette fois-ci, c'est la culture espagnole et c'est merveilleux. Le prétexte, une autre fois, ça sera autre chose. Ces rencontres permettent aux hommes, et je reviens à l'acte constitutif de l'UNESCO, de mieux se connaître. Ou plutôt, c'est assez amusant de la façon dont on l'écrivait à l'époque, de mieux se connaître les coutumes les uns des autres. Alors, on parlait de coutumes. C'était un peu l'anthropologie de ce temps-là qui montrait que les hommes étaient pétris par des coutumes constitutives, mais on voit bien ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il faut être curieux les uns des autres, être à l'écoute. Et à travers ça, l'enrichissement vient non pas, il vient un peu, il vient beaucoup même du contact avec les autres, mais il vient surtout de l'approfondissement intérieur. On sort de cette perception très étriquée, très limitative, d'être un soi, d'être une personnalité qui aurait sa propre limite en elle-même. On découvre des infinis, sans borne, à l'intérieur de soi, à la faveur de ses contacts. Et bien sûr, l'humanité ne peut qu'y gagner.
Philippe Rath, merci pour ce beau développement autour du mot diversité.
Merci. Merci à vous.